Moi, je prendrais des poussins au café oriental. J'irais plus totalement ces
poussins. Moi, c'est Céline de Courbatie, on fait sondage. En combinant les deux, c'est juste de mes présidents pour trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro des Paroles aux auditeurs de cette semaine. Paroles aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité et les préoccupations quotidiennes. Ce lundi 12 juillet 2010, nous parlons avec vous de la manipulation de produits pétroliers. On entend par là le transport, la conservation et la commercialisation de ces produits. Vous vous rappellerez qu'il y a plus ou moins deux semaines passées qu'un incident malheureux est arrivé à Sangué dans la province du Sud-Kivu, où plus de 250 personnes ont perdu la vie dans l'explosion d'un camion citerne qui transportait du carburant et qui s'est renversé dans cette localité. Un autre incident, c'est l'incendie d'un dépôt du carburant à Chikapa au Kasaï occidental, un incident qui a entraîné la mort de trois personnes et plusieurs autres biens calcinés. À cela s'ajoute également la construction de stations-service à proximité des maisons d'habitation et dans les carrefours. En ce qui concerne la catastrophe des Sangué, notons que le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement a indiqué à Radio Capi l'ouverture d'une enquête et selon les premiers éléments disponibles révélés par le ministre Mende, le chauffeur n'était pas congolais et que le véhicule était assuré au Kenya. Nous avons deux questions avec vous pour lancer l'échange et le débat de ces jours sur la manipulation des produits pétroliers. Quelle est la situation des conservations, des commercialisations et du stockage de ces produits dans votre milieu et que faut-il faire pour éviter ces genres d'incidents? Vos points de vue et propositions sont les bienvenus. Nous allons tout de suite recevoir dans ce studio pour en parler M. Emery Banti-Poupé. Il est le vice-président national du groupement des sociétaires privées du pétrole. Parole aux auditeurs, une émission réalisée par Koukoum Poutou, assistée de Nicole Ngaka et du Marquis, et à la mise en onde, et Piro et la Méjie vous la présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Pour un numéro en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Bonjour à tous. La manipulation des produits pétroliers, c'est le thème des paroles aux auditeurs, eu égard à ce qui est arrivé il y a plus de 10 semaines passées, comme j'étais en train de le dire, 250, plus ou moins 250 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion d'un camion citerne qui transportait du carburant. C'est à Sangué, une localité dans la province du Sud-Kivu. De la même manière, à Chikapa, dans les Kasaï occidental, l'incendie d'un dépôt de carburant a entraîné la mort de trois personnes et plusieurs autres biens sont calcinés. Les gens déplorent également la construction de stations-service à proximité des maisons d'habitation et dans les carrefours dans différentes villes de la RDC. Nous en parlons avec vos fidèles auditeurs. Quelle est la situation de la manipulation des produits pétroliers en ce qui concerne leur conservation, leur commercialisation et surtout leur stockage dans votre milieu? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces genres d'incidents? Nous en parlons avec vous, comme Séraphin qui est à Ouvira et qui est en ligne. Séraphin, bonjour.
Oui, bonjour, Tonton Piro.
Séraphin, nous parlons de la conservation de produits pétroliers, leur transport, leur commercialisation, leur stockage. Vous êtes au Sud-Kivu, où l'incident malheureux que tout le monde déplore est arrivé il y a presque deux semaines passées. Quel est votre point de vue par rapport à ce qu'il faudrait faire pour éviter ce genre d'incidents?
Bon, en fait, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'abord d'adresser le message de condoléances à la population kivu en général, particulièrement à celle du territoire de Vuia, plus que seulement aux familles victimes de ce drame de Sangué, et aussi cette famille de Chikapa dans le quartier occidental qui avait perdu trois de ses enfants dans les familles du Bouko, de Kardia et de certains pays. S'agissant du drame de Sangué, j'estime que quatre raisons sont à la base de cette incendie. Personnellement, il y a d'abord la détérioration de la situation socio-économique de la population congolaise en général, plus particulièrement du territoire de Vira. Il y a aussi l'état de délabrement très avancé de nos infrastructures de base en général, précisément celle de la route nationale numéro 5, au Vira-Bukavu. Il y a encore l'ingérence de notre gouvernement dans l'exploitation de certaines stations d'essence et enfin la légèreté de travail de nos polices spéciales de l'âge. Personnellement, une autre que je suis arrivé au lieu du drame, juste après quelques heures de incendie, avant l'inhumation des victimes de cet incendie, dans une fosse commune. D'après les propos recueillis sur place de certains rescapés de ce drame, ils avaient d'abord incriminé la police spéciale de Rouage.
Mm-hmm.
Et aussi le mauvais état de la route qui était primordialement à la base du renversement de ce camion super. Parce que lorsque ce camion venait de sa manière là, devant lui, il y avait un autre véhicule stationné sur la tête principale arrêté par la police spéciale de Rouage, qui était mal stationné. Par les éléments de la police qui ont arrêté ce véhicule, même si ce chauffeur du camion citerne voulait dévier notre véhicule mal stationné, vu aussi la réduction sensible du côté de l'agent de notre route nationale numéro 5, ce camion citerne s'est immédiatement renversé.
Mm-hmm.
Après toujours les mêmes sources que j'ai eues au niveau de Sangue, le renforcement de ce camion citerne est survenu vers 17h. Et à quelques états même, ils avaient vu les militaires du FRDC, quelques éléments du casque bleu de la MONUSCO, étant venus vite sécuriser ce camion en protégeant contre le pillage envisagé par certains habitants qui coupent sur leur terre dans la misère exagérée occasionnée par la mauvaise gouvernance sociale de la part de nos autorités. Dans le passage de leur misère, ces habitants avaient considéré ce camion comme si c'était une manne qui descendait du ciel. Mais ça, malheureusement, les militaires qui étaient venus pour sécuriser ce véhicule, vers 18h, alors qu'il faisait déjà un peu sombre là, ce même militaire et leurs épouses se sont livrés au pillage de ce camion. Et qui a aussi la population mal intentionnée de ce coin, ces derniers ont aussi emboîté le pas. Malgré l'interdiction du chauffeur de ce véhicule, personne n'a obtempéré. C'est comme ça qu'avait un peu commencé le pillage de ce produit.
Je pense
que le samedi est survenu, c'est le samedi qui a présent à son origine.
Okay.
Et qu'on a aussi cet important dégât humain matériel.
Voilà, et comme je le disais à l'introduction, le ministre, le porte-parole du gouvernement Santal a annoncé l'ouverture d'une enquête. On aura de plus amples informations et clartés autour de ce gouvernement.
Mais
c'est rapide, s'il vous plaît. Revenons un peu à ce qu'il faut maintenant, sauf que le drame est déjà arrivé. C'est rapide. Quelles sont vos propositions pour qu'on puisse éviter ces genres de drames dans l'avenir, pour aller être un peu plus concret par rapport à notre sujet d'aujourd'hui?
Oui, en fait, moi, je proposerais d'abord ceci. Il faudrait aussi qu'il y ait la réhabilitation de nos routes, de nos infrastructures routières. Parce qu'aujourd'hui, dans notre territoire du Vira, la route nationale numéro 5, c'est une route que je suis même être les poumons économiques de notre province. Donc, c'est une route qui nous engorge un peu le port de Kamindou avec notre ville de Bukavu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudrait aussi qu'on améliore la situation socio-économique de la population,
oui.
Et notamment de nos militaires. Et la troisième chose aussi, il faudrait aussi qu'il y ait la réglementation sur la route. Parce que les policiers, les policiers de la DPC, ce sont ceux qui causent beaucoup d'accidents. Lorsqu'ils arrêtent quelqu'un, un taximen, ne soit un véhicule, ils demandent des tests, même si on est en arme, ils arrivent même à demander la carte de baptême. Est-ce que ça a des rapports avec l'arme d'attribution?
Voilà, merci.
Alors, ça crée un peu des accidents là-dessus. Mais je voudrais peut-être revenir sur le propos du ministre.
Non, Séraphin, s'il vous plaît, nous n'allons pas faire un débat autour des propos de ministre.
Ouais,
merci, merci beaucoup, Séraphin. Merci, Séraphin, pour les propositions en ce qui concerne les thèmes. Nous n'allons pas aller dans ce qui n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Les propos du ministre ne sont pas les sujets des paroles aux éditeurs. Vous avez d'ailleurs proposé 3-4 choses qui sont très intéressantes par rapport à ce qui doit être fait pour éviter ce genre de drame dans l'avenir. Merci beaucoup de nous avoir appelé d'Ouvira au site Kivu. Nous avons aussi Godefroy qui nous appelle de Sangué. Il est député honoraire et Kakuli qui est académie. On va vous prendre après quelques poussières de secondes.
Parole aux auditeurs.
Godefroy, vous êtes à Sangué sur place où le drame est arrivé il y a quelques jours passés. Nous parlons aujourd'hui dans cette émission de ce qu'il faudrait faire pour éviter ces genres de drames dans l'avenir. Bonjour Godefroy.
Bonjour monsieur journaliste, je ne suis pas à Sangué, j'y étais pour l'enterrement de mes frères.
Mm-hmm.
Je suis déjà à Bukavu.
Okay.
Bon, je voulais seulement dire que ce qui est arrivé à Sangué, il y a beaucoup de gens qui parlent de pillage, des militaires qui étaient là. Bon, je ne sais pas où ils tirent ça. C'est vrai que lorsque le camion s'est renversé, il y avait beaucoup de gens au niveau des des petits cinéastes qui regardaient le match Brésil et l'autre pays là, ils voulaient, non? L'incident s'est produit, beaucoup de gens sont venus à juste à spectateurs, des militaires qui empêchaient, tout ça, donc condamnés, des militaires, la misère des militaires, c'est vraiment négligé notre armée. C'est vrai que les militaires sont morts parmi les victimes, mais ils y étaient non pas pour piller, parce qu'ils sont malheureux, etc. Non, et ceux qui venaient, pour justement empêcher les gens, parce que les champs et la flamme a pris vraiment, même ceux qui étaient à 50 mètres, est-ce qu'on peut piller à 50 mètres? Mm-hmm. Je pense qu'on doit relativiser ces propos et attendre les enquêtes qui se poursuivent. Mais en ce qui concerne ce qui doit être fait, franchement, au niveau de notre pays, partout ailleurs, il n'y a pas de sécurité. Vous voyez comment la Pétro-Congo s'est entourée par des Kinshasa, parce que j'ai vu aussi à Kinshasa, comment s'est entourée par les maisons. Si ça explose là-bas, c'est grave. On ne parlera pas de pillage. Vous voyez les stations de service partout à Kinshasa. Vous voyez au niveau des ronds-points du soir, la station qui est au milieu là, les autres seraient explosés. Ce sera la catastrophe. Moi, je pense que ce qui est arrivé à Sandé est arrivé. C'est question de voir prévenir, peut-être informer la police que lorsqu'il y a cet incident comme ça, que les gens ne viennent pas tout autour. Parce que même si vous venez regarder tout autour, à 10 mètres, à 50 mètres, quand ça explose, vous êtes complètement qualifié. Donc, c'est plus voir, revoir tout. Donc, le ministre caché des hydrocarbures, que je connais bien les yeux, Mbouy, qui voit comment délocaliser certaines
stations service.
Service, les éloigner des agglomérations. Il y a des stations qui sont collées au mur des habitations, vous savez, à Bukavu, via. Partout au Congo, c'est comme ça. Donc, il faut revoir cette politique.
Voilà.
Pas une question de pillage ou de misère. Non. Je pense qu'il faut. C'est vraiment négliger la mémoire de nos frères. Tout ce qui, pour moi, n'était pas venu pour piller.
Merci de deux fois.
Avoir quand même quitté des projets qui sont morts.
Merci, Godefroy. Je rappelle que vous êtes maintenant à Bukavu, mais vous étiez à Sangué pour l'inhumation des victimes de cette catastrophe. Merci de cette proposition. Akalemi, c'est Kakouli qui nous appelle, mais je signale à nos auditeurs que notre invité, M. Emery Mbansibopé, vient de faire son entrée dans ce studio pour ensemble que nous puissions analyser ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de catastrophe dans la manipulation des produits pétroliers. Akalemi, Kakouli, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, Pierre et la Mège.
On vous écoute, Kakouli.
Ok, moi je voulais tout juste donner des propositions pour éviter de telles catastrophes liées peut-être aux produits pétroliers qu'on sort.
Ok, on vous écoute, Kakouli.
Ok, la même proposition, comme Sérafin Gouvira l'a dit, sur le problème de l'amélioration des infrastructures routières. Comme on a atteint le point d'achèvement, et comme on a suivi le président de la République, il fallait qu'on veille vraiment à la réhabilitation des routes pour éviter de telles catastrophes. En plus, les camions qui transportent des produits pétroliers doivent être en bonne condition. Avant le départ, il faut que ces camions soient bien vérifiés. Aussi, on doit éviter de mettre des stations relative aux produits pétroliers à côté de ou près des habitations de la population. Voilà mes propositions.
Merci Kakouli. Nous prenons le dernier auditeur de cette série. C'est Jean qui nous appelle de Kirumba. Au Nord Kivu, Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot.
Vous êtes à Kirumba au Nord Kivu et nous parlons de la conservation, la manipulation, les stockages, tout ce qui touche les produits pétroliers. Dites-nous un peu à Kirumba, est-ce que vous avez des dépôts de carburant à Kirumba? À quel niveau se trouvent ces dépôts? Est-ce qu'ils sont au marché? Est-ce qu'ils sont loin de la ville? Quelle est la situation de stockage, de commercialisation de produits pétroliers à Kirumba?
Mais dans notre cité de Kirumba, il y a au moins trois grands dépôts, mais ce sont des dépôts qui se situent malheureusement à côté des habitations des personnes.
Mm-hmm.
Alors, il y a eu un accident de ces gens qui s'était produit il y a presque deux mois. Il y a eu toute l'habitation qui contenait des au-dessus des sens, puisque la métaphore était calcinée, la monnaie est arrivée un peu tard.
Mm-hmm.
En ce qui concerne les drames, hein, pour éviter des situations de ce genre, moi j'aurais quelques propositions.
Allez, je vais
en placer en deux.
Mm-hmm.
Oui, nous avons donc sous le contrôle du ministère des
hydrocarbures, oui.
les services des compagnies des produits pétroliers devront être bien instruits au sujet de la conservation et de la manipulation de ces produits-là, tant pendant les transports, la vente, que pendant aussi les dépôts.
Mmh. Et puis en deux, allez-y.
Oui. Oui, en deux, ceux qui nous gouvernent devront placer leurs compatriotes dans des conditions les meilleures pouvant leur permettre de se procurer un bon salaire. Imaginez-vous, beaucoup de personnes qui viennent assister dans une salle au match de foot de la canne de la Coupe
des
Nations. Et quand pareil événement se produit, imaginez-vous les pertes de nos compatriotes qui devront être tués pendant cet événement. Et aussi pour terminer, nos compatriotes devront être plus patriotes, permettez-moi de le dire,
mm-hmm.
apprendre à ne pas courir à des endroits où il y a des accidents de genre, épuiser gratuitement les carburants d'autrui. Je crois qu'il faut qu'un accident de ce genre ne se reproduise plus davantage dans l'avenir et qu'il y ait des véhicules anti-incendie plus proches et que la police soit aussi instruite en ce qui concerne ce genre d'événements pour éviter des pertes éventuelles dans l'avenir. Voilà tout, M. Pierrot.
Merci Jean-Marie. Vous êtes à Kirumba, au Nord Kivu.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Emery Bakabopé, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Et bienvenue au studio de Radio Capi.
Merci.
Vous occupez beaucoup de fonctions, outre le fait que vous êtes un opérateur économique. Alors, est-ce que si on vous présente comme le vice-président national du groupement des sociétés pétrolières privées, je pense que ça va, mais vous avez encore d'autres fonctions qui touchent bien sûr au secteur pétrolier.
Oui, je crois que ça globalise, ça prend un peu l'ensemble de tout ce que nous faisons. Donc, c'est bien, je suis vice-président du groupement national des sociétés pétrolières privées, GNPP en cycle. Et c'est à ce titre que je participe au comité de suivi de la structure des prix au ministère de l'économie et au comité professionnel des importateurs au ministère des hydrocarbures.
Voilà. Voilà. Merci. Nous parlons de produits pétroliers. Le drame est arrivé à Sangué. Vous avez suivi les auditeurs qui, les uns et les autres, ont évoqué les raisons. À Chica, parce qu'il y a un dépôt qui a pris feu il y a presque 3 jours passés. Presque, ça en est suivi mort d'homme. Tout cela touche à la manipulation de produits pétroliers. C'est les domaines dans lesquels vous vous retrouvez. Quelle est votre réaction d'abord par rapport aux événements malheureux qui sont arrivés dans la manipulation des produits pétroliers?
Merci bien, monsieur le journaliste. Je commencerai à l'instar de tous ceux qui ont appris le drame qui s'est produit au Sud-Kivu. Je voulais ici présenter les condoléances aux familles éprouvées et souhaiter prompte guérison à tous ceux qui sont blessés et qui sont dans des hôpitaux. Nous compatissons et nous sommes aussi choqués en tant que professionnels dans le secteur des hydrocarbures. Et nous espérons que, avec toutes les dispositions qui seront prises, nous allons tout faire pour que pareille situation ou pareille ne puisse reproduire en diminuant les risques et les dangers. Vous savez, monsieur le journaliste, que les produits pétroliers, c'est un produit hautement stratégique. C'est un produit qui doit être manipulé, mais avec beaucoup plus de prudence. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, tout est organisé. Je m'en vais pour preuve pour dire qu'au secrétariat général des hydrocarbures, il y a toute une direction que nous appelons DTS qui est chargée du département, disons la direction qui est chargée du transport et du stockage. Ce qui veut dire que c'est dans ces directions que l'on trouve des contrôleurs, des spécialistes, des inspecteurs qui sont censés vérifier avant d'autoriser donc un dépôt ou un matériel quelconque qui peut être utilisé dans la manipulation des produits pétroliers. Ça veut dire que pour qu'on agrée une entreprise, pour qu'une entreprise soit considérée comme entreprise exerçant l'activité dans le secteur des hydrocarbures, cette entreprise doit être soumise à un contrôle et il faut un aval de ce service-là.
Est-ce que vous vous rendez compte de la manière dont les auditeurs ont dénoncé les dépôts qui sont à proximité des maisons d'habitation, les stations de services qu'on érige presque partout? Est-ce que vous vous rendez compte que ces services font convenablement son travail de vérifier avant d'octroyer ou d'autoriser les dépôts, les stations de services, les transports, tout cela, vous qui travaillez en collaboration directe avec ces services?
Oui, monsieur le journaliste, je crois que ici, j'aimerais vous rappeler que la situation socio-économique des, pas seulement du Congo, mais avec la crise financière qui est internationale, beaucoup de ceux qui faisaient des activités autres que les activités dans le secteur des hydrocarbures se sont lancés en masse, en grand nombre, dans le secteur des hydrocarbures. Alors, moi, je sais que ce service, puisque je connais comment ce service travaille, ce service travaille de la bonne manière. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils commencent d'abord par vérifier les critères d'agrément. Et on voit les critères administratifs, on voit les critères professionnels, et ce n'est qu'après qu'on doit voir si et seulement si cette entreprise, ou parlons du cas des stations d'essence, parce que vous parlez des stations à proximité des maisons, mais moi je dois vous dire que pour qu'on érige une station, on tient compte d'abord de l'environnement, on tient compte de toutes les dispositions sécuritaires. Je prends pour le secteur ouest, c'est-à-dire le secteur des services par SEP Congo, qui a le pipeline et qui a le monopole. Dans ce, de ce côté ouest, c'est-à-dire nous prenons le Bas-Congo, le Kinshasa, légèrement un peu Bandundu, avant que l'on puisse commencer, il y a d'abord l'autorisation de l'autorité urbaine. L'autorité urbaine, avant de donner le titus, pour qu'on commence, il doit tenir compte de la proximité des maisons, il doit tenir compte de l'environnement. Et cela ne suffit pas. Lorsque vous êtes autorisé à ériger une station, il y a tous les services techniques, que ce soit du secrétariat général, qui va aussi vérifier, et ajouter à cela le service de SEP Congo. Parce qu'en fait, SEP Congo ne peut pas venir livrer du produit dans une station dont les dispositifs sécuritaires ne sont pas réunis.
Oui, oui.
Vous comprenez? Donc, quelque part, en ce qui concerne les dispositifs sécuritaires, on tient compte, et même si la station service est érigée aux abords ou aux côtés des maisons d'habitation, mais ce qui est important, c'est de savoir que cette station est placée, mais en respectant les conditions de sécurité.
Mmh.
Allez-y comprendre. Quand vous vous approchez d'une station-service, vous vous rendrez compte qu'il y a des signaux, il y a des signalisations. D'abord, arrêtez votre moteur, il y a deux sens dessinés, il y a par exemple interdiction d'utiliser les téléphones portables dans la piste, c'est-à-dire à côté des îlots où on a placé les pompes de distribution. Rien que ça, il y a des inspecteurs placés. Et ces inspecteurs sont toujours vérifiés chaque trimestre pour voir quelle est la quantité de poudre, quelle est la capacité. Et on doit voir à côté des dispositions de pompage d'eau pour lutter contre les incendies éventuels.
Voilà. Alors, avant qu'on puisse continuer, parce qu'il y a, trois auditeurs qui sont en ligne, Norbert qui est à Kananga, Bongol qui est en Bandaka et Roger qui est à Kinshasa, nous allons aussi leur donner la parole. Et parce que vous avez évoqué les stations-service, on pourra parler aussi des dépôts de carburant, peut-être à nouveau élire l'endroit où il n'y a pas de stations-service, ces dépôts sont plus érigés au marché, à côté des boutiques, comme ce qui est arrivé à Chicago.
On va venir.
Ok, on va effectivement parler de cela, mais donnons d'abord la parole à Norbert qui est à Kananga. Norbert, vous êtes en ligne?
Oui, bonjour Kiro, bonjour à tous les auditeurs de la radio Patrick, c'est Robert Dubéla et je suis à Kananga. Je vais juste intervenir en ce qui concerne les drames qui s'est passé de l'autre côté de Sangue.
Mm-hmm.
Vous imaginez, Pierrot, lors de ces disciples-là, il doit faire une journée-là de la population. Et les thèmes retenus, c'est tout le monde compte. Maintenant, les jeunes de Sangue, là, est-ce que vous souhaitez vivre cette fête? Vous vous imaginez encore? Les jeunes sont. Donc, on a perdu plus de 200 Français, personne comme ça.
Voilà, parce c'est vrai.
Plus, plus, Donc, c'est l'Italien, il nous a dit que l'invité de dire là. Et nous, quand nous avons constaté, nous voyons que ce sont les gens qui voient le produit pétrolière là, hein, ce sont eux qui filment en ce moment là, ce sont eux qui provoquent aussi tout ce qui se passe. Donc, nous demandons à l'État, désormais, qu'il puisse créer des commissions dans des provinces en train de chercher. Donc, ces comités là-bas circulent pour voir ce qui se passe. C'est aussi le problème des carburants. Donc, vous voyez, un camion là qui transporte 200 filles. Vous vous imaginez, c'est aussi les charges, hein? Donc 200 filles par camion. Et quand on marche avec ça, on trouve toujours des descentes. Donc ce n'est pas bien. Donc voilà. Nous demandons à l'État de revoir ça.
Merci Norbert, il faut que l'État puisse revoir tout cela. Nous allons en Bandakia où se trouve Bongol. Bongol, bonjour. Bongol, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour Pierrot et la Régie.
Voilà, vous avez suivi Norbert, hein, il a donné quelques propositions sur ce qu'il faut faire pour éviter ces genres d'incidents. Quelles sont vos propositions? Vous êtes en Mandaka à l'Équateur.
Oui, pour éviter ces genres de catastrophes, il faut réglementer la manipulation des produits pétroliers. Il faut aussi former les personnes qui doivent manipuler. N'importe qui ne doit pas faire n'importe quoi. C'est ça le problème en RDC. Il faut aussi sensibiliser la population. Parce qu'en Bandaka, au mois de novembre 2001, le programme élargi de vaccination avait permis plus de 100 filles de sang parce que la sentinelle qui était là avait oublié que l'effet de la cigarette peut aussi provoquer l'incendie. Si la population n'est pas sensibilisée, il serait vraiment difficile d'éviter déjà les catastrophes. Concernant les transports de produits pétroliers, il faut demander aux opérateurs économiques ou soit aux chauffeurs de ne pas transporter les produits pétroliers pendant les heures de pointe. Si cela se passe la nuit là, on pourra éviter ce genre de catastrophe.
Merci Bongol, nous revenons ici à Kinshasa avec Roger, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les uns et les autres, vous avez suivi notre invité. Ensemble, nous voulons réfléchir pour savoir ce qu'il faut faire pour éviter les catastrophes du genre Sangué, du genre Tikapa et les autres encore qui sont arrivés dans les jours passés en ce qui concerne la manipulation des produits pétroliers. Roger, vous écoutez.
Oui, on déplore le temps du gouvernement de malheureux de Sangué, mais on oublie qu'à Kinshasa, nous sommes exposés. Exposé à quoi? Je vous dis, il y a des stations dirigées à 0 mètre de la population. Je vais dire, quand vous arrivez sur Kibanga, vous voyez, les stations sont à 5 mètres de la station. Il n'y a même pas d'inspecteur que vous dites, moi je connais, pour quand vous voulez demander que la population, normalement le gouvernement, prenne cette disposition. Ailleurs, il y a des stations qui font 50 mètres de la population. C'est bien. Arriver à Kibanga. Arriver même vers le bloc là qui se bloque. Il y a un type qui est en train de construire une autre station à 0 mètre.
Oui, Roger, si vous pouvez aider l'auditeur qui n'est pas à Kinshasa, quand vous parlez de Kibanga, ça veut dire quoi? C'est un quartier d'une commune, oui. C'est la commune de Bandalungwa.
À la commune de Bandalungwa.
Il y a un quartier qu'on appelle Kibanga, c'est ça.
Kibanga, okay. Avec Kibanga là-bas, vous allez voir, il y a une station à 0 mètre, je vous dis, des habitations.
Pour vous compléter, ce qu'il faut pour vous, c'est au moins respecter la distance de 50 mètres des habitations.
Dans de telles explosions, je vous dis, ça atteint directement la population.
Merci beaucoup, Roger. On reste avec Kinshasa, avec Mangalibi, c'est le dernier auditeur de la série avant de prendre encore notre invité. Mangalibi, bonjour.
Bonjour,
Thomas. On vous écoute hein, par rapport à la sécurisation du secteur pétrolier pour éviter le drame qu'on a évoqué.
En fait, il y a ma réaction, c'est d'abord, c'est plus au niveau des autorités. Je sais qu'il y a des 3 ou 4 mois, qu'on avait revendiqué pour une station qu'on construisait à côté d'une école. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, au niveau de l'administration, et on a affaire à des gens qui n'ont pas de compétences par rapport aux responsabilités qu'on leur donne. Mais je pense qu'ils donnent les autorisations pour ériger les lits de station n'importe où. Or, il y a des lois, comme notre ami venait de dire, et l'urbanisme est là. Il y a des règles qu'on devait arriver à respecter. Mais et ce sont des gens de façon, je vous dis, ils font ce genre de choses, mais ils ne sont pas inquiétés. Tu vois?
Vous savez que vous pensez que les autorités sont laxistes de ces côtés-là, c'est ça?
Oui, je te dis là qu'il y a, il y a un sérieux problème. D'ailleurs, nous sommes dans un pays où il y a plein, il y a les règles.
Mais le problème,
il y a,
c'est
il y a les règles. Et que les gens qui sont censés faire respecter les lois ne le font pas.
Merci, merci Mangalibi. Merci beaucoup Mangalibi. Vous êtes ici à Kinshasa. On va vous donner la parole, monsieur Emery Bopé, tout de suite.
Le plein d'énergie, c'est dans Total Énergie, pendant 50 minutes, avec la ronde de tout ce qui concerne la jeunesse du pays et d'ailleurs. On se retrouve donc à partir de 15h du lundi au vendredi. Je suis Camille Laminado et je serai de la partie.
Voilà, nous parlons hydrocarbures, nous parlons produits pétroliers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les drames hein, qui sont arrivés, comme à Sangué, comme à Tchikapa, en ce qui concerne le transport, la commercialisation, le stockage de tout cela, votre point de vue. Et les bienvenus dans Parole aux auditeurs, envoyez-vous par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Merci à tous ceux qui sont déjà intervenus depuis le début de cette émission. Monsieur Emery Bantibopé, vous avez suivi encore l'inquiétude de nos auditeurs. Nous venions de parler d'ailleurs des stations service à Kinshasa. Il y a par exemple ici dans les carrefours où on trouve les véhicules, les arrêts bus, tout cela, tout est mélangé dans les carrefours et il y a les stations service. Mais il y a aussi le problème de tous ces dépôts qui sont dans les milieux réguliers où il n'y a pas les stations service. Comment vous vous assurez vraiment que les conditions sont respectées dans votre groupement? Comment vous vérifiez tout cela pour être assuré que vous ne puissiez pas demain porter la responsabilité entre guillemets, c'est-à-dire que les opérateurs de votre groupement, comment vous agissez aussi à votre niveau pour éviter, pour vérifier tout cela et aider les uns et les autres pour que vous ne puissiez pas demain porter la responsabilité d'un drame qui peut survenir d'un moment à l'autre avec s'il y a une attention quelque part.
Merci beaucoup, M. le journaliste. Je remercie tous les auditeurs qui nous suivent. Nous échangeons, c'est pour aider aussi à trouver, à proposer aussi d'autres solutions. Moi, je crois que nous, en tant qu'opérateurs économiques dans le secteur, nous avons compris qu'il y a des choses à faire. Nous, en tant que groupement, nous portons un cartel et qui peut accompagner aussi l'État au travers du ministère des hydrocarbures à réglementer, pourquoi pas, ou ça peut encore d'abord à identifier qui est habilité réellement à exercer cette activité. Nous sommes en train de dire peut-être que l'administration ou ces différents services au niveau de nos provinces, surtout du côté où cette Congo n'a pas les contrôles, où les privés exerce une activité presque en monopole. Par exemple, à l'Est, nous prenons par exemple au Katanga, à part le secteur Ouest, qui est desservi par cette Congo. Mais dans ce coin-là, où il n'y a pas le monopole de cette Congo, nous avons réellement un problème. C'est-à-dire que les divisions qui se trouvent dans ces provinces peut-être donnent des autorisations à des personnalités qui peut-être après avoir présenté les moyens financiers, on dit bon, moi j'ai de l'argent, je vais être importateur ou je vais être distributeur et on donne le papier. Non.
Sans aller en profondeur pour vérifier les règles des mécanismes qui doivent l'accompagner.
Il faut avoir des qualités éprouvées, il faut avoir des compétences et il faut être soumis à un contrôle. Et ce contrôle doit être un contrôle sans complaisance, parce que
et c'est là où se trouve effectivement le problème.
Oui, moi je pèse bien le mot. La vie de nos compatriotes en dépend. Nous venons de voir qu'il y a un nombre important de nos compatriotes. Ceux-là qui peuvent aussi dire un mot au Conseil des Nations, ceux qui peuvent aussi influencer positivement dans leur participation à la gestion de la chose publique, ils sont diminués de cette population ou de ce peuple. Nous déplorons, on n'est pas en train d'encourager, mais nous disons que si on cède ou on agrée, par exemple, notre groupement comme structure d'abord d'encadrement, structure d'identification et structure d'éducation, structure de recyclage, voilà, de tous ceux qui sont en train d'exercer l'activité en tant que privé, nous allons aussi aider le gouvernement à a affirmé cette donne importante dans la définition de la politique pétrolière.
Voilà.
Ça, c'est un 2D. Je voudrais dire, ici par exemple, à l'ouest, nous avons les installations aéroportuaires, par exemple, qu'on appelle SRS. Nous, qui sommes privés, on ne participe pas. Pourquoi? Parce que pour distribuer les produits jets de l'aviation, il faut souscrire à une assurance et qui est une assurance internationale. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous, nous voulons accéder, on nous donne des conditions. Ça, c'est un des deux. Lorsque nous l'emmenons, par exemple, moi j'amène un camion privé, pour que ce camion privé puisse prendre des produits à cette Congo ici dans les complexes à côté, ici en ville ou bien à Massina, ce produit et ce véhicule doivent subir un contrôle. On doit vérifier d'abord est-ce que le camion démarre, on doit vérifier les extincteurs, on doit vérifier est-ce que les chauffeurs portent les casques, est-ce que dans le véhicule il n'y a pas quelque chose qui peut déclencher des intincelles. Et tout ça, ce sont des dispositions que l'on doit prendre et ne pas laisser n'importe quel véhicule transporter du produit aussi dangereux que le produit pétrolier.
Mais parce que vous avez parlé de compléter.
Oui, oui, je suis en train de compléter parce que c'est tellement stratégique et technique qu'il faut nécessairement une formation et un recyclage. Parce que des fois, on se contente de ce qu'on a l'habitude de faire sans se rendre compte du danger. Il y a un auditeur qui a dit, mais ici, à qui ça sort? Vous savez, à Mariano, nous avons connu des problèmes. À Mouenedi, tout. Moi, je me souviens, en 2004, j'étais là, je dis qu'il y a eu un homme de mort. Et à Mbujimayi, même à Kananga, chez moi.
J'ai
peur que, par exemple, à Mweka ou à Ilebo, par exemple, Ilebo, c'est aussi un grand dépôt qui est à Ilebo, que nous puissions connaître des cas pareils. Oui, sauf Congo, qui est du groupe Total, et bien sûr, l'État congolais à départ, est en train aussi d'amener dans la sécurité des manipulations. Mais cela ne suffit pas. Il faut trouver, par exemple, nous, GNPP, nous sommes disposés, et je vous dis même que nous avons écrit, depuis que cet événement est arrivé, nous avons écrit au ministre de tutelle pour solliciter l'agrément, que nous soyons, oui, que nous soyons une structure qui va assurer l'encadrement, disons encadrer, informer, former et recycler les opérateurs économiques dans le secteur du pétrole.
Pétrole, voilà.
Très important, parce que tous ceux qui exercent cette profession, ils ne tiennent pas compte, ils se contentent des dividendes et des moyens.
Ce n'est pas compte des normes.
Mais ce n'est pas
voilà. Mais en évoquant, bien sûr, le problème de l'importation, par exemple, vous avez parlé du Katanga, il y a, après le drame de Sangui, il y a eu un événement, c'est au niveau de Kasumbalé, ça, où la population était très inquiète parce qu'il y avait des camions citernes qui attendaient les contrôles au guichet, mais le responsable du guichet parlait d'une soixantaine de camions citernes qui étaient là à la frontière. Mais comment on peut sécuriser une soixantaine de camions citernes à un guichet? Au niveau aussi des guichets, c'est arrivé aussi à Bounia où la population s'est plaignée. Il y avait autant de camions citernes. Les gens se demandaient où est-ce qu'ils pouvaient stocker autant de camions pour comment les sécuriser dans un guichet, par exemple, quand ils attendent le contrôle. Tout ce mécanisme, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ces produits se retrouvent sans camions citernes dans une frontière?
Justement, vous avez bien analysé la situation, monsieur le journaliste. Je peux vous dire, ici, c'est là où les responsabilités sont partagées. Le service des douanes et les services connexes, prenons Foner et tous les autres, lorsque il y a des produits stratégiques, des produits dont l'évacuation ne doit pas constituer un retard, il faut que le service des douanes ne bloque pas à la frontière un aussi important lot, un chariot automobile et un danger permanent. Peut-être que ces camions sont hors normes. C'est pourquoi nous disons, bien que ces camions peuvent apporter les produits dans la République démocratique du Congo, mais il faut que ces camions subissent un contrôle pour voir est-ce que ces camions sont dans les normes. Et il y a l'OCC qui travaille sur peut-être le volume, la certification du volume, la certification de la qualité, et tout ça, ce sont des éléments qui interviennent avant que le véhicule
arrive. Il faut que ça soit expéditif au niveau du point de contrôle.
Voilà, justement, il faut que ça soit expéditif à l'instar des arrêts qui peuvent, par exemple, être avariés ou
voilà.
On ne peut pas bloquer. Au-delà même de 5 camions, c'est déjà dangereux.
Voilà.
Il faut que les produits pétroliers bénéficient de la procédure d'urgence et que ces véhicules ou ces dépôts répondent aux normes est que nous, qui sommes professionnels, puisqu'il faut donner aussi la tâche à ceux qui sont professionnels.
Voilà. Prenons Paulin qui est à Issiro et Bosco qui est à Chicapa. Paulin, vous êtes à Issiro, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour à tous les spectateurs de la radio Capit, bonjour à notre invité.
Donc voilà, Paulin, à Issiro, comment ça se passe par rapport à la manipulation des produits pétroliers?
En tout cas, chez nous à Issiro, ici, nous n'avons pas les produits pétroliers. Nous dépendons sur la. Si nos camions peuvent aller à Bounia, on va recevoir la pétrole directement parce que à Bounia, en tout cas, qui va nous rembourser les pétroles ici à Issiro. Parce que si nous marquons les pétroles, en tout cas, c'est difficile pour aller rejoindre notre Bounia.
Alors, le problème, mais quand vous avez les produits pétroliers qui arrivent à Issiro, comment sont-ils stockés, comment sont-ils vendus?
Ok, souvent, stocker, les vendeurs viennent pour acheter, pour distribuer, on va vendre ça par les mesures, parce que nous avons beaucoup de difficultés à cause de ça.
Ça veut dire beaucoup de difficultés en ce qui concerne le stockage, ce qui rend ces produits rares à Issiro. Merci Paula. Nous allons à Chicapa, c'est là où un incendie s'est déclaré en début du week-end passé, qui a fait des morts, bien sûr, trois personnes ont perdu la vie. Bosco, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Pierre Lamouche.
Ce n'est pas la première fois que les incendies se déclarent dans les dépôts à Chicapa. Quelle est la situation? Pourquoi ces dépôts prennent feu à Chicapa? Ce n'est pas pour la première fois, Bosco.
Merci beaucoup, Pierre. D'ailleurs, je profite pour saluer l'invité qui est avec nous. Je souhaite condoléances à toutes les familles qui se passent ces catastrophes dans toute la RDC, bien entendu. Et à votre question, Pierre et Lamé, je vous dis qu'à Chicapa, c'est la cinquième fois que les dépôts prennent fin. Et c'est la cinquième fois comptée à bout du doigt, comme ça, au bout du doigt, c'est la cinquième fois que les dépôts de carburant prennent fin. Pourquoi? C'est parce que les dépôts ici, chez nous, à Chicapa, sont au milieu de la population, ça c'est un, ou au milieu des boutiques. Et pour aussi vous faire un peu illustrer ou vous dire la vérité, la route principale, l'avenue Lumumba de Chicapa, qui est connue par tous, cette avenue n'a que 4 ou 5 mètres de largeur. Les rives gauche, rives droite, donc c'est face en face, et que quand il y a le feu à gauche, ce sont les maisons, les boutiques qui sont à droite, qui empathisent. Je me souviens bien, il y a 3 ans, bien entendu, il y a un dépôt pareil, juste aux environs, là, qui avait aussi pris feu, et c'était catastrophique parce que les avions voulaient atterrir, et vous savez bien, les dépôts de carburant à Chicapa sont aux environs de l'aéroport national de Chicapa, qui a quelques 10 mètres, et les avions n'ont pas pu atterrir à cause de fumées qui montaient, et les avions sont allés atterrir à Kanani, je ne sais pas moi, on fait les tirs pour retourner à Tunisie, je ne sais pas moi. Donc, c'est difficile. Le mauvais emplacement des dépôts de carburant manque aussi de structures conformes pour qu'on puisse loger ce genre de dépôts au Pérou de la Mer.
Voilà, Bosco, mais je me rappelle qu'à un moment, il y avait le maire de la ville qui avait pris la décision à Chicapa de délocaliser tous les dépôts de carburant pour qu'ils se retrouvent un peu à l'écart de la ville, que ces dépôts puissent partir de ces marchés qui est confondu avec les habitations. Qu'en est-il de cette décision, Bosco?
Voilà, c'est de là que je voulais parler. Avant l'actuel maire de ville, il y avait le chef de cité, que cela me repose en paix, M. Jean-Lé Kiamouan-Zanine. C'était un monsieur dynamique à Chicapa. Jean-Lé Kiamouan-Zanine avait voulu qu'on puisse délocaliser les dépôts de carburant, mais la population n'a pas voulu. Et le maire de ville aussi avait pris la même décision. Mais c'est la population qui ne veut pas obtempérer à ce genre de décision. Et ce sont ces commerçants de dépôts de carburant, bien entendu, qui fragilisent la décision de l'autorité. Comme ils ont l'argent peut-être, ils nous vont et l'autorité aussi n'a pas cette maîtrise là pour aller jusqu'au bout dans une décision. C'est comme ça que ces dépôts continuent à traînailler, à être aux environs, donc au milieu de la population, au milieu des boutiques, au milieu des magasins, et qu'il y a vraiment des catastrophes qui tombent sur la main.
Merci Bosco, vous êtes à Chicapa, au Kassai occidental. Nous allons à l'est de la RDC, hein. C'est en province orientale, les Kassanganis, Saint-Christ qui nous appelle. Saint-Christ, bonjour.
Bonjour, monsieur. Effectivement.
Vous avez suivi les uns et les autres les témoignages de Tchikap avec Bosco, à Kisangani. Quelle est la situation par rapport à la manipulation des produits pétroliers?
Oui, exactement. Parce que, en tant que j'ai abondé dans le même sens, je présente mes condoléances de plus en plus à toutes les familles éprouvées par cet accident à Sangué. Parce que, dès que je me trouve à Kisangani, une cité au fait j'ai quand même évolué vers mes citoyens. Ici, à Kisangani, je dirais un peu désolant, c'est que vous verrez quelqu'un qui passe à la station, c'est pour tirer des produits pétroliers, se trouvant d'un côté des pompes, n'est-ce pas? Il essaye même de décrocher son appel
en
réaction là. Et ceci présente n'est pas un danger tout à fait. Et qui est plutôt par rapport peut-être au dégât qui s'est ou qui s'est produit réel. Pour ça. Pour faire aussi un pas en arrière par rapport à ce qui s'est passé à Sangué, comprenez mon émotion, par rapport à ce qui est comme accident, parce que comment se fait-il qu'un accident qui a eu lieu à 16h, c'est qu'une explosion a eu lieu à 18h, on est à 14 km de là, et il y a eu le choix de la police de la sécurité routière qui était présente, et quand les gens voulaient le choix donner ces produits ou ces procurants qui produisaient chacun avec un bidon, chacun avec une capsule par rapport à ça, pour essayer un petit peu d'en avoir facilement, il y a eu une étape excès, selon moi, de la soda, c'est ce qui a permis à ce qui est explosion, et qui comprenait bien sûr que dans le village, il y a que la plupart des gens sont en paille, et qu'il y a eu une étape que l'explosion ne faisait que ramasser ce qui était à son papa. Donc moi, si c'est moi qui serais peut-être le procureur de la République pour le parti du village, allez quand même ouvrir un procès par rapport à cette autorité policière qui était commis, le soir.
Voilà. Oui.
Parce qu'il allait quand même interdire les gens, le soir, de ne pas vouloir se défiler.
On vous comprend, en ce qui concerne la catastrophe, c'est comme je l'ai annoncé au début de l'émission, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, a annoncé effectivement l'ouverture d'une enquête qui va permettre à ce que les responsabilités soient dégagées, hein, les uns et les autres, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Mais pour terminer avec vous, qu'est-ce qu'il faut faire, en dépit de tout ce que vous voyez à cette année, qu'il faut faire pour éviter ces gens des drames?
Ce commerce frauduleux, il faut le dire entre guillemets. Vous savez, il y a aussi une part des responsabilités quand même attribuées à certains services de l'État et commis à la frontière. Est-ce que ce critère n'avait été vérifié ou contrôlé avant son décollage et des temps donné, une chose du Kenya vers la RDC? C'est quelque chose qui a même qui a en fait un certain nombre de questions que chacun voudrait quand même avoir une
précision. Voilà, on aura plus de précisions à l'issue de l'enquête plus simple. Voilà, merci beaucoup. Merci Saint-Pierre, vous êtes en train d'en gagner.
Personne, mes connaissances, amis, c'est vrai, c'est vrai, il faut qu'ils nous disent la vérité.
Voilà, désolé vraiment pour ce qui est arrivé, et surtout pour vous qui avez une histoire liée à cette cité où vous avez fait vos études primaires. Mais du moins, l'enquête a été ouverte, on aura plus de précisions à l'issue de tout cela. Vous êtes à Kisangani, nous vous disons merci. On va à Lubumbashi, où se trouve Michel, bonjour.
Bonjour.
Michel, nous tendons vers la fin de l'émission. On vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui à Lubumbashi, où vous vivez particulièrement, pour sécuriser le secteur des produits pétroliers et éviter des incendies et des drames tels qui se sont venus il y a quelques jours passés en RDC à Tchikapa, tout comme à Sangué.
Oui, pour moi, je pense que la responsabilité incombe à l'État parce que celui qui est habilité celui qui a le monopole du contrôle, après, il doit aussi qu'il y ait aussi une formation, par exemple, de notre police. Alors, il faut quand même qu'il y ait une limitation de circulation quand il y a des véhicules qui transportent des carburants comme ça. Peut-être, par exemple, de 24 heures à 5 heures du matin. Vous voyez, à ce moment-là, la population n'est pas quand même en train de circuler.
Comme ça peut être réussi en cas d'une panne ou d'un problème, les gens ne peuvent pas s'approcher des camions citernes. Ok, merci.
Pour terminer,
vous ajoutez, oui, allez-y.
Pour terminer, moi je pensais que qu'il y ait quand même une formation de notre police, conforme à notre police, parce que la responsabilité revient à l'État, qui forme quand même, et la population soit informée dans le cas de telle situation, qui ne puisse pas se rapprocher. Après aussi la construction. l'emplacement, par exemple, de ces institutions-là. Il ne faut pas qu'on puisse porter ces outils-là aux alentours, donc au cœur de la population.
Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup, Michel. Vous êtes à Lumbashi.
Parole aux auditeurs.
Avant de prendre Bazar Tati, qui est presque qui est notre dernier auditeur de cette émission, pour 3-4 minutes, Monsieur Emery Boton vous donne la parole. Est-ce que vous avez un mécanisme de suivi? Vous êtes grossiste, par exemple, vous vendez les produits à ceux qui vont avec ces produits jusqu'au fin fond, dans les villages, et là aussi se pose un véritable problème de manipulation. Est-ce que au niveau de votre regroupement, vous aidez aussi ceux qui viennent s'approvisionner auprès de vous à être sensibilisés et formés jusqu'au niveau de terminal et des consommateurs?
Oui, merci. Je salue tous les auditeurs qui posent des questions très pertinentes. Je signale ici que le porte-parole du gouvernement, l'actuel ministre de la Communication, c'était l'ancien ministre des
Hydrocarbures,
son Excellence Mende, que je salue. En son temps, vers le 2008, au mois d'août, je crois, on avait déjà commencé, moi j'étais membre de plusieurs commissions, on avait déjà commencé à résoudre peut-être certains problèmes qui, avec le temps, avec le dynamisme de l'actuel ministre, que c'est le symbole que je salue aussi, nous pouvons résoudre ces problèmes. On parle de la responsabilité de l'État. Oui. Pensez-vous, chers journalistes et tous ceux qui nous suivent, que le secteur des hydrocarbures n'est pas réglementé? Est-ce qu'il n'y a pas des arrêtés signés avec des textes et des conditions et des critères définis? Au jour d'aujourd'hui, c'est un problème, j'ai suivi tous ceux qui interviennent. Un dénominateur commun, c'est la sécurité dans la manipulation des produits. Ok, ça, c'est ça les dénominateurs communs.
Et là, les interventions sont partagées, et l'État et les exploitants.
Voilà, et les exploitants, et l'État. Au travers plusieurs structures. J'ai parlé de l'OFIDA, j'ai parlé de tous les services qui interviennent à la frontière. Parce que nous avons, j'ai cité ici, des voies d'approvisionnement et de distribution. Nous avons le pipeline, qui est le monopole du Fort Congo. Nous avons les routes, les cars de Sangui. C'est par route que ce produit venait au Congo. Nous avons la voie ferroviaire. Là, nous voyons
la SNCC
avec la SNCC. Vous voyez, avec ces trois voies, Nous estimons que les textes sont là. Mais dans l'application, il y a aussi un problème d'éducation civique. Ici, est-ce que lorsque vous êtes distributeur, vous transportez le produit pétrolier, mais aidez aussi à ce que ces populations qui sont les potentiels acheteurs, qui sont aussi protégées. Vous ne pouvez pas transporter le produit, vous ne pouvez pas placer un dépôt, on l'appelle seulement dépôt, mais autour de ce dépôt, il n'y a pas de disposition sécuritaire.
Voilà.
Et que cela, il faut encore que l'État vienne. Mais si l'État a déjà placé des responsables qui peuvent gérer le secteur au niveau local, ils ne peuvent que les appliquer. C'est pourquoi nous disons que nous voulons aussi aider. Parce que nous avons vu certaines insuffisances. Nous, en tant que groupement, nous pouvons aider aussi l'État à identifier. Quelqu'un qui veut solliciter un agrément, il passe par le groupement. Le groupement va servir de tamisage ou de passoire. Où le groupement permettra à l'État d'aider et de vérifier pour dire qui fait quoi.
Merci.
Est-ce qu'il est identifié? Est-ce qu'il est, il a les critères professionnels? Est-ce qu'il a le matériel qui puisse permettre à protéger notre population ou diminuer les risques?
Comme il y a deux minutes qui nous séparent de la fin de l'émission, nous donnons la parole à Baza Tati. Vous êtes président des revendeurs de produits pétroliers. Vous êtes à Mwanda, c'est dans la province du Bas-Congo. Bonjour, monsieur Baza.
Oui, bonjour, monsieur.
Nous vous prenons vraiment à la fin de l'émission qui est consacrée aujourd'hui à la manipulation des produits pétroliers. Au niveau de votre groupement, à Mwanda, comment vous travaillez pour assurer la sécurité, que ce soit des revendeurs, que ce soit des consommateurs, pour éviter le drame du type incendie dans vos installations et dans vos dépôts?
Bon, toujours nous avons déjà à notre niveau sollicité un espace médiatique au niveau de la radio communautaire de Mwanda. Nous avons une émission ce qui se passe chaque lundi pratiquement à 20h30.
Mm-hmm.
Nous avons presque 30 minutes, 40 minutes d'émission. Alors là, nous convions tous les revendeurs de produits pétroliers et aussi les consommateurs de produits pétroliers au risque de se prévenir des risques d'incendie, tout ça. Et là, nous leur décortiquons les dispositions sécuritaires, les dispositions sécuritaires. Mm-hmm. Parce qu'il y en a beaucoup, ici nous n'aurons pas vraiment le temps de les décortiquer. Mais de toutes les façons, nous insistons beaucoup. Nous aussi, nous avons toujours, et parfois, tout récemment, il y a eu un transvaseur, donc qui transvaseur les tonneaux en tonneaux, mais qui n'a pas respecté les dispositions sécuritaires, tout le dépôt a préféré. Et vraiment, ça a été un vrai catastrophique parce que le propriétaire de ce produit-là a perdu tout ce qu'il avait.
Mmh.
Alors, nous avons saisi de ce problème. Nous avons, au cours de notre émission, repris les dispositions sécuritaires. Au niveau du consommateur aussi, il y a beaucoup de cas de brûlure,
Monsieur Bassatati, désolé vraiment que nous n'avons que 30 secondes pour terminer cette émission, mais dis-moi, nous pourrions vous retrouver prochainement, parce que nous allons élargir encore cette émission pour parler vraiment de toutes les mesures. Mais merci quand même pour le travail que vous faites au niveau des médias. Nous allons vous donner la parole, monsieur Emery, pour que passer là, c'est 30 secondes pour terminer l'émission. Mm-hmm. On ne sera pas vidé pour la même heure aujourd'hui. Vous avez suivi les auditeurs les uns et les autres pour conclure dans 30 secondes.
Oui, je disais ici que dans l'État, au mois d'août 2008, on avait déjà mis en place un avant-projet de code des hydrocarbures.
Mm-hmm.
Je crois que le Parlement, qui est dirigé par Evariste Bochard, va rapidement terminer la loi dans le secteur des hydrocarbures.
Mm-hmm.
Et ça va aussi résoudre, parce que dans ce texte, il y a presque tout qui est délié.
Voilà,
et nous disons que nous sommes disposés à accompagner le gouvernement en tant que groupement pour aider, sensibiliser,
voilà, merci beaucoup, monsieur Emery Bopé. Merci à tous les auditeurs. On termine par là cette émission. On va se retrouver à 12h53 pour vous communiquer les sujets de l'émission de demain. Merci à toute l'équipe. Au revoir à tous. On se retrouve demain, mardi.
Il est 12h.
Le journal avec Babel Bongo.
À la une, le retour en RDC des Congolais réfugiés au Sud-Soudan à cause de la LRA. Ils sont près de 8000 à avoir regagné le territoire de Faradji ces trois derniers mois. À la base, l'amélioration de la